Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast qui parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mars 2009 et c'est l'épisode numéro 3, les bateaux jouent au morpion. Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode du Rendez-vous Tech, l'émission où on parle actualité, technologie, gadgets et internet toutes les deux semaines. Et aujourd'hui, mes camarades Yann et Jeff ne sont pas présents sur le podcast, mais j'ai l'honneur et le privilège et l'avantage d'avoir deux illustres membres de notre communauté internet avec moi. Le premier, c'est Mathieu de MacJT.fr. qui est un podcast, bonsoir Mathieu, qui est donc MacJT, si je ne m'abuse, je sais que je ne m'abuse pas puisque je l'ai écouté à de nombreuses reprises, c'est un podcast sur l'actualité Mac qui est publié toutes les semaines, c'est ça ?
Voilà, exactement, tous les dimanches soirs à 19h30, je traite de l'actualité du monde Apple, mais aussi plus généralement des nouvelles technologies.
Donc c'est une petite émission très bien faite, d'une quinzaine de minutes à écouter avant le journal du dimanche, c'est ça
Exactement ça, c'était une tranche horaire très peu prise, que ce soit sur les sites d'actualité ou même ailleurs. Donc j'en profite de cette petite baisse pour diffuser mon podcast, et ça marche plutôt bien, l'horaire a l'air de plaire.
Eh ben, moi, je pense que c'est l'horaire et la qualité du produit que je vous recommande à tous vivement, que vous ayez un Macintosh ou pas. Et notre autre invité, c'est également un membre de la communauté illustre, c'est Corben de Corben.info, qui est le blog technologie et geekerie divers et variés. Comment vas-tu, Corben ?
Bonsoir, oui, ça va bien.
je définis ton blog de manière un petit peu sectaire. Est-ce que tu es content de cette définition ou je vais me prendre une baffe un jour ?
Non, c'est pas. Ouais, enfin, c'est pas vraiment que des geekeries, on va dire. Mais bon, non, c'est un petit blog où c'est détendu, où je parle un peu de ce qui me plaît, de ce que je trouve sur Internet. Ça peut aller un peu de tout vers n'importe quoi. Ça peut être des choses assez techniques, ou alors des vidéos un petit peu débiles. Enfin, bon, c'est assez varié.
Bah, en tout cas, moi, je le consulte plusieurs fois par jour. Enfin, bon, moi, je te suis sur Twitter, donc forcément, tu as les liens à ton blog, donc je suis alerté en permanence. Donc forcément, j'y vais de temps en temps. Mais si vous ne connaissez pas encore Corben.info, je vous le recommande aussi. C'est un site où on trouve des choses assez sympathiques. Pour info, Corben, c'est K-O-R-B-E-N. Voilà, vous savez tout et on ne va pas perdre plus de temps parce que l'actualité brûlante de la technologie nous attend. Et donc on va se lancer dans le programme de l'émission avec une première info qui a fait beaucoup de bruit il y a une dizaine de jours sur le net. C'était l'histoire des conditions générales de Facebook.
Alors, les fameuses.
Voilà, Facebook, je pense que tout le monde connaît, puisque je crois les derniers chiffres que j'ai vus, c'était plus de 8 millions d'utilisateurs en France.
Donc, et 175 millions, si je ne m'abuse, dans le monde.
Ouais, quelque chose comme ça. Donc
ça fait un grand pays, quoi.
Ce qui est clair. Bah ouais, quand même.
J'ai lu plutôt, c'était la troisième nation.
Si ça avait été une nation,
tu ramènes ça en pays, c'est le troisième plus grand pays du monde.
Pas mal. Bah, donc ça veut dire concrètement que tous ceux qui écoutent cette émission a priori sont sur Facebook, enfin j'imagine. Et donc vous êtes concernés par cette histoire qui est que il y a une dizaine de jours, Facebook a modifié ses conditions générales, pas de vente, mais enfin d'utilisation, et ils ont spécifié qu'ils avaient le droit d'utiliser tout le matériel, donc les photos, les textes, les informations, tout ce que vous mettiez sur Facebook pour toujours, à jamais, que vous soyez sur Facebook ou pas. Donc même si vous fermez votre compte, ils avaient le droit de l'utiliser, de le publier, de le vendre, de faire tout ce qu'ils voulaient avec, de faire de l'argent dessus, jusqu'à la fin des temps.
Alors évidemment, ça a provoqué un véritable tollé.
Bah voilà, c'est compréhensible. Disons qu'il y a souvent
totalement compréhensible
des conditions générales de ce type-là. Sauf que généralement, une fois qu'on a fermé son compte, eh ben le site en question perd le droit à l'utilisation de ces informations.
Voilà, qu'on reste propriétaire de ces données au moment de fermer son compte. Voilà, exactement ça.
Alors. Finalement, il y a eu une telle levée de bouclier que Mark Zuckerberg, qui est le président de Facebook et le créateur
de
Facebook, voilà, est revenu en arrière. Il a dit non, finalement, c'est pas ce qu'on va faire parce que bon, on va essayer d'expliquer les choses un petit peu mieux. Est-ce que vous savez pourquoi ils sont allés aussi loin dans ces conditions?
Moi, je sais pourquoi ils sont. En fait, le changement des conditions générales d'utilisation, bon, c'est tout simplement pour vendre les données, voilà, à des tiers, afin d'exploiter à des fins de publicité, etc. Mais ils sont revenus en arrière parce que les gens s'en allaient, quoi. Les gens partaient. J'ai vu par exemple sur le formulaire de désinscription de Facebook. Si là vous y allez, il y a un super encadré jaune dans lequel c'est écrit attention, si vous partez parce que vous n'êtes plus d'accord avec les conditions générales, sachez que c'était une erreur de notre part, on s'en excuse, ne partez pas. Ouais, ils ont modifié leur formulaire de désinscription rien que pour ça. Donc je pense qu'ils sont revenus en arrière parce que les gens se barraient, quoi, c'est tout.
Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Moi, j'ai entendu une explication qui est peut-être un petit peu moins catastrophiste et que j'ai tendance à croire aussi. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que c'était un problème légal également qui fait que quand on met quelque chose sur Facebook, ils ont intérêt à se couvrir au maximum s'ils veulent, par exemple, le publier sur la page utilisateur de quelqu'un d'autre. Si on met une photo à nous et qu'ils veulent l'utiliser pour la mettre sur la page de quelqu'un d'autre, il faut qu'ils aient le droit de faire ça. Donc, c'est intégré dans les conditions générales d'utilisation. Et si jamais, nous, on annule notre abonnement, il faut qu'ils aient toujours le droit de publier cette photo sur la page de quelqu'un qui, lui, n'a pas annulé son abonnement. Donc, voilà. Ils y sont allés très fort, ils y sont allés très un petit peu avec une main trop ouverte, mais c'était une surestimation des besoins légaux qu'ils ont fait à l'origine. Et c'est une autre explication que j'ai entendue. Donc, je ne sais pas ce que ça vous inspire.
C'est aussi celle que j'ai entendue, comme quoi que Facebook souhaitait conserver les comptes et les informations des comptes qui étaient supprimés pour pouvoir continuer de les afficher, par exemple quand on s'est fait taguer sur une photo et que c'est pas notre photo et que la photo elle provient d'un compte qui a été supprimé, qu'on puisse toujours avoir accès à cette photo. Mais c'est vrai que d'indiquer qu'on concède le droit perpétuel, illimité, à travers le monde,
à travers l'univers,
à travers l'univers, et que Facebook détient la licence exclusive pour tout ce qui est publicité, etc. C'est vrai que c'est quand même un peu fort à mon sens. Ouais. Il y avait d'autres manières sans doute de le marquer dans ces conditions générales, mais ça montre aussi d'un côté que ce soit Google dont on parlera plus tard ou Facebook, ça a beau être les numéros 1, les troisièmes plus grandes nations du monde, etc. Ils restent quand même très dépendants de leurs utilisateurs qui peuvent facilement renverser la vapeur.
C'est certain.
Et je trouve ça très intéressant.
Ah ben c'est sûr que là, ils se sont, comme le disait Corben, ils se sont un petit peu fait dessus. Hein. Ils ont vu les gens qui partaient à un rythme alarmant, donc tout de suite, ils ont fait machine arrière. Finalement, c'est plutôt positif, quoi. Ça montre que les utilisateurs, les petits utilisateurs que nous sommes, ont aussi leur mot à dire. Moi, je trouve ça plutôt...
Là, ce qui est assez original, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai, en fin de semaine dernière, Mark Zuckerberg a fait une petite conférence call à laquelle j'étais convié, quelle chance, dans laquelle, en fait, il a expliqué que, ils avaient merdé, et que maintenant, ils allaient lancer une opération où en gros ça allait être les utilisateurs de Facebook
qui
allaient pouvoir décider des conditions générales. Donc, il allait justement discuter du brouillon, hein, du draft des conditions et voter pour chaque partie de ces conditions. Donc, il y a tout un document qui explique ça. Il faut s'inscrire sur un groupe, etc. Et tous les utilisateurs de Facebook, donc comme une démocratie finalement, peuvent aller voter pour ces conditions. On va voir ce que ça donne. Ça me paraît un peu utopiste, mais bon, pourquoi pas.
Ouais, c'est ça, ce que sent aussi la grande opération commerciale, ça.
Bah, aussi, oui. Certainement, mais a priori, enfin, moi, j'avoue que je suis un petit peu sceptique parce que essayer de faire voter tout le monde. Ce que je suis en train de dire, essayer d'avoir une démocratie, c'est complètement fou, c'est ridicule, ça ne marchera jamais. Bon, oui, c'est une bonne idée peut-être, mais vraiment essayer de faire discuter tout le monde, moi j'ai l'impression, vu ce que ça donne généralement sur Internet, ouais. On va plus se retrouver dans un brouhaha incompréhensible que... Mais bon, on sait jamais, hein, ça va peut-être...
Ça va être un sac à troll peut-être, sans doute.
Sans doute, ouais. Donc voilà pour Facebook. La deuxième grosse histoire qu'on a eue la semaine dernière, c'était le fameux Spectrial de Pirate Bay. Alors, Spectrial, qu'est-ce que c'est ? Trial pour procès, Spec pour spectacle, et Pirate Bay, c'est un site qui indexe des fichiers BitTorrent, c'est-à-dire que ce sont des fichiers qui vous permettent de télécharger des gros fichiers en P2P. Pour les gens qui ne connaissent pas exactement ce que c'est que le P2P, c'est un petit peu le même système que Emule, Kazaa, tous ces logiciels. C'est la dernière génération de Napster et c'est souvent utilisé pour télécharger des fichiers illégaux, de la musique, des films, tout ça. Le problème, en fait, c'est que... alors, évidemment, les associations de droits d'auteur, que ce soit de l'industrie du disque ou du cinéma, essayent de s'attaquer, encore une fois, à ces sites-là qui indexent tous ces fichiers BitTorrent. Mais le problème, c'est que, d'une part, il y a des fichiers BitTorrent qui sont utilisés pour des usages parfaitement légaux. Par exemple, si quelqu'un veut distribuer un logiciel libre sans que ça lui coûte des millions de dollars en frais de bande passante, il peut utiliser un fichier BitTorrent et l'envoi de ce fichier va être partagé entre tous les gens qui le téléchargent, donc c'est très pratique.
Voilà, je crois que c'est bien de préciser que le BitTorrent, c'est un des premiers systèmes de partage de fichiers qui est utilisé aussi beaucoup d'une manière légale, voire même à tel point que Microsoft, Apple ou d'autres s'y intéressent pour l'intégrer dans leur système afin de procéder aux mises à jour système de cette manière. C'est-à-dire vraiment, il y a un protocole derrière très fort qui peut être utilisé d'une toute autre manière que celle qu'on connaît au téléchargement de films ou de musique.
Bien sûr. Alors bon, ça c'est le premier handicap, enfin handicap pour l'industrie de la musique et du film, qui fait qu'ils auront du mal à vraiment prouver la culpabilité totale de Pirate Bay. Et l'autre problème légal, c'est que Pirate Bay n'héberge pas ces fichiers, matériel illégal. Pirate Bay héberge les références au matériel, qu'il soit légal ou illégal de toute façon. Donc, bon, ça, c'est pour donner un petit peu de contexte. Et puis, pour donner un petit peu plus d'informations sur la manière dont ça se passe, sur l'aspect Spectrial de cette histoire, est-ce que vous avez suivi tous les deux cette histoire ? Peut-être que vous pourrez m'en parler un petit
jour
peu.
Jour par jour.
D'accord. Bon, ben, je crois que Mathieu a envie d'en parler. Dis-moi un petit peu ce qui s'est passé, les petites brèves les plus marrantes de cette histoire.
Ah bah là on pourrait en faire quasiment toutes les jours, hein, parce que c'était vraiment un spectacle, en même temps un spectacle de divertissement tant sur la forme que sur le fond. C'était vraiment
excuse-moi, je t'interromps simplement pour te demander peut-être de nous expliquer qui sont ces personnages étranges de Pirate Bay, d'où ils viennent et à quoi ils ressemblent, parce que c'est vrai que c'est des personnages quoi, ils sont bizarres et ils sortent de l'ordinaire.
On va les résumer à quatre personnes. On a deux personnes dont je vais pas essayer de prononcer le nom, vu qu'ils sont suédois. Donc on a les deux administrateurs du site, on a l'élaborateur et le porte-parole dédié à la communication qui est très fort dans son domaine, et on a le fameux homme d'affaires qui finance ou a financé tout ça. Donc on a vraiment une histoire, je pense que ça risque de faire un film. Ça risque de faire un film. Donc on a ces quatre personnages, parce que c'est vraiment des personnages, quand on peut lire les résumés des interrogatoires, etc., ils ont vraiment tous un rôle. Et jour après jour, on a eu un véritable spectacle, tant par ces quatre personnages que par ceux représentés, comme dit, des fameux ayants droit et des majeurs, qui ont démontré vraiment par A plus B leur méconnaissance totale du sujet.
C'est vrai que ça a commencé le premier jour, hein. Il y a eu un
Ça a
truc.
commencé fort.
Ah oui, avec le. Comment dire, le. Comment il s'appelle? Je crois que c'est. Oui, tout ce qui est représentant de Sony Music ou avocat de Warner Bros, etc. Ou même rien que comment dire, la personne qui présente les faits, etc., qui n'arrivait même pas à lancer un PowerPoint ou mettre sa vidéo en pause, et qui est censé démontrer, expliquer comment techniquement ça fonctionne, c'est vrai que c'était du spectacle, c'était vraiment.
Ce qui est assez marrant, c'est que justement le procureur, il a fait en fait il a fait une démo le premier jour de comment ça marchait, et
Voilà, à
donc il a
Cannes-Roswell.
téléchargé un fichier piraté. Donc il s'est même rendu lui-même coupable en fait d'avoir copié et partagé un fichier on va dire illégalement quoi.
Et voilà,
d'ailleurs
c'est-à-dire
le
qu'au fil... Pardon?
vas-y Mathieu.
C'est-à-dire, à Cannes-Roswell, le procureur, au final de sa démonstration, il avait simplement démontré comment lui-même, personnellement, a choisi de télécharger et de partager du contenu en accusant The Pirate Bay. Ce
Bon,
qui est assez paradoxal.
c'est pas faux. Il faut dire aussi que au sortir de la des premiers comment dire de l'introduction faite par les avocats de Pirate Bay, la moitié de l'accusation a été rejetée par la cour suédoise parce qu'ils ont montré que ce que disaient les plaintifs, l'industrie du disque et l'industrie de la musique, était inexact, était tout simplement pas vrai. Donc ils l'ont montré très simplement. Donc déjà à la base, le premier jour, la moitié de cette accusation a été rejetée. C'est un bon début.
Elle a changé trois fois au final, si je me trompe pas.
C'est possible. Moi, je me souviens du premier jour parce que ça a évidemment fait beaucoup de bruit. Il y a eu aussi un autre truc qui a fait énormément de bruit. C'était cette idée que l'accusation ne comprenait pas du tout la philosophie, la manière de fonctionner de cette organisation qu'est The Pirate Bay aujourd'hui. Et ils l'ont illustré en posant les mauvaises questions. Quelles sont les mauvaises questions? C'est-à-dire qu'ils posaient des questions qui s'appliqueraient à une société ou une organisation classique et à laquelle les gens de The Pirate Bay n'avaient sincèrement pas de réponse. Par exemple, ils disaient, mais alors, qui chez vous est chargé de tel aspect de la programmation? Qui chez vous a décidé de prendre le site dans telle direction? Qui chez vous a pris la responsabilité de tel ou tel aspect du site? Et à chaque fois, les gens de The Pirate Bay répondaient, mais vous comprenez pas comment on fonctionne? Chez nous, il n'y a personne qui est responsable. Quand quelqu'un estime qu'il y a quelque chose qui a à faire, eh ben il le fait. Quand quelqu'un estime qu'il pourrait faire quelque chose mieux que quelqu'un d'autre, eh ben il va sur le site, il change la chose et il le fait lui-même. Et il n'y a pas vraiment, ça s'organise comme ça, tout de manière vraiment organique, naturelle, et ça, il n'y a pas de structure claire et décidée. Et ça a vraiment déstabilisé l'accusation parce que ils se rendent compte qu'ils n'ont pas affaire ils ont affaire à une bête complètement différente qu'ils ne connaissent pas. Et je trouve que ça symbolise quand même beaucoup ce combat entre vieux monde et nouveau monde, enfin, ça cristallise cette différence finalement.
Parce que ce qui est assez hallucinant aussi, c'est que de Pirate Bay, ils sont, enfin, le site en lui-même, il est complètement autonome en fait. C'est-à-dire que j'avais lu ça il y a un petit moment déjà, où en fait les administrateurs ne savent même pas où sont leurs propres serveurs. C'est-à-dire qu'ils payent des mecs qui vont acheter des serveurs dans des data centers, etc., un peu partout dans le monde, et les propriétaires du data center ne savent même pas ce qu'il y a sur le serveur. Donc, et c'est juste un truc, je sais pas, on peut imaginer un OS, un truc qui démarre tout seul, etc., qui devient un node du réseau de Pirate Bay, et tout ça c'est interconnecté comme un voilà comme un vrai réseau peer-to-peer, on va dire. Et les administrateurs ont aucun contrôle là-dessus. Ils savent pas où sont leurs propres serveurs. Donc, même s'ils se retrouvent en prison, il y a fort à parier que ça va continuer à fonctionner tout seul, voilà, pendant quelques mois, voire quelques années.
Mais c'est ça la tragédie en fait de cette ancienne industrie, entre guillemets, c'est que plus ils essayent de combattre cette hydre, plus ils ne réussiront qu'à la faire renaître sous mille formes différentes. Et
ah que, oui, totalement.
Que la chose soit légale ou pas, finalement, n'est même pas le problème. Ils devraient finalement comprendre cette réalité qui est qu'ils ne peuvent pas véritablement la contrôler. Donc, on pourrait en faire des tonnes et des tonnes sur le sujet.
Il y a ça aussi, et la publicité qui leur font, quoi. On avait vu quand en Italie, ils avaient bloqué le site en Italie, le gouvernement, enfin les fournisseurs d'accès Internet avaient bloqué le site de Pirate Bay. Il y a eu des pics de connexion hallucinants dès que ça a été remis
c'est,
en ligne.
C'est d'ailleurs, la dernière, comment dire, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, la dernière chose qui avait été dit par un des plaignants, c'était que si les quatre administrateurs n'étaient pas condamnés à un an de prison ferme, comme visiblement c'est requis ces derniers jours, ça allait leur faire une publicité incroyable, la plus grande publicité qu'ils n'avaient jamais pu avoir ou espérer pour ce site.
Ah, c'est certain, ça leur fait, ça fait beaucoup parler d'eux. À noter aussi que le site de Pirate Bay est particulièrement militant et ils sont partisans de la liberté et de l'échange de l'information et c'est même des partisans pro-piratage. Ils disent il faut libérer ces choses-là et c'est presque une intention politique. Donc, en dehors du fait qu'il y ait des utilisations légales à tout ça, il est utile, je pense, de signaler pour être parfaitement honnête que eux sont ouverts à l'idée de l'utilisation illégale également. Je crois que j'ai coupé quelqu'un.
Plus que ça, c'est la liberté même d'expression en fait. Enfin, au-delà des fichiers, ils ont par exemple un service qui permet d'héberger des photos, un service on va dire non censuré. C'est-à-dire que là demain, je prends des photos d'un truc que le gouvernement veut interdire. Bon bah il l'interdit. Si je vais l'héberger sur c'est pas The Pirate Bay, ça s'appelle BIMG. Si je vais l'héberger là-bas, les photos vont y rester et impossible de les censurer. Même chose avec les blogs, ils ont une plateforme de blog qui est basée sur WordPress MU et c'est pareil, c'est des blogs anonymes complètement sécurisés, on va dire. Pas moyen de savoir qui écrit sur le blog ou pas moyen de stopper le blog.
Donc, et nous, pardon, fini.
Non, c'est bon.
Ce que je veux dire simplement, c'est que nous, on n'y voit peut-être pas forcément énormément d'intérêt de notre France confortable. Par contre, je pense que les Chinois ou d'autres personnes un petit peu opprimées au niveau de la liberté d'expression,
ça va bientôt arriver en France.
Extrêmement important.
Ça va arriver en France. Et le truc aussi qu'il faut s'arrêter de Pirate Bay, c'est qu'ils ont un projet en fait. Enfin, ils ont déjà commencé, mais de crypter toutes les données, tous les échanges. Parce que d'un bout à l'autre de la chaîne, tout sera en crypté et donc les fournisseurs d'accès n'auront plus moyen de savoir ce que vous faites, en fait, ce qu'on télécharge ou ce qui se passe.
C'était ça, et puis c'était aussi les premiers à dire que si des lois comme l'Adopi passaient en France ou en Nouvelle-Zélande, ce seraient les premiers à insérer des adresses IP générées aléatoirement dans les paquets
excusez-moi, juste avant de passer à la loi Adopi, effectivement, parce que vous m'offrez la transition idéale, mais je vais pas la prendre parce que je voudrais parler d'une toute dernière chose sur cette histoire de Pirate Bay avant de passer à la loi Adopi. C'est l'histoire de Roger Wallis, dont je sais pas si vous avez entendu parler.
Les fameuses fleurs.
Voilà. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Roger Wallis est un universitaire qui a fait une étude sur la corrélation entre le piratage et la vente. Et il est venu témoigner au procès pour dire qu'il n'avait pas trouvé, après les conclusions de son étude, il n'avait pas trouvé de relation entre l'augmentation du piratage et la baisse des ventes. Comme beaucoup de gens le disent, le fait de pirater ce n'est pas la cause de la baisse des ventes. Il y en a bien d'autres et on ne va pas rentrer dans ce sujet. Bref, lui a dit qu'il n'avait pas non plus trouvé de corrélation. Et la cour lui a demandé, est-ce que vous voulez...
Pour les indemnisations.
Voilà, est-ce que vous voulez être indemnisé pour votre déplacement pour le procès ? Et lui a dit, non, non, il n'y a pas de problème, je suis venu, je n'ai pas besoin d'indemnisation. Par contre, si vous voulez, vous pouvez envoyer des fleurs à ma femme. Et évidemment...
Une grosse surprise.
la communauté internet s'est emparée de cette petite demande et a envoyé le jour même, ou dans les deux jours, 4000 euros de fleurs à la femme de ce brave monsieur Wallis, qui a été comblé et sous une avalanche de fleurs. Donc j'ai trouvé que c'était une note sympathique pour
terminer. Très sympathique, mais c'est devenu un, comment dire, le héros, le héros de ce procès, parce que d'une fait de son statut, de son âge, de l'étude qu'il a menée, qui était sans doute, comment dire, la seule vraie étude complète qu'on a pu voir dans tout ce procès, il a pleinement défendu de tous les côtés en disant voilà, le piratage peut créer des choses, regardez le revenu des artistes qui a augmenté grâce aux ventes de concerts et non le chiffre d'affaires des majors grâce à la vente de disques. Donc il a vraiment démontré de A à Z et forcément sa démonstration de 6 ou 7 minutes qui montrait le rôle de The Pirate Bay dans la diffusion d'un torrent, c'était tout simplement la réalité. Mais cette réalité qui était magnifique au final, et ça rajoute, quand je le disais que ça pourrait devenir un film, ça rajoute ce côté émotionnel et assez incroyable à cette affaire. Et si je peux me permettre de revenir sur ce que tu as dit, Patrick, sur le fait que les industries, moi, j'aime absolument pas ce terme, mais malheureusement c'est ça, cette industrie culturelle et tous ces majors qu'on combatte une bête qui, plus ils vont couper des têtes, plus il y a des têtes qui vont pousser. Ce qui est exactement ça. C'est vrai que les représentants des majors, les avocats, les plaignants, etc., ont fait vraiment bourde sur bourde, mais de jour en jour. Dès le deuxième jour, on a eu les différents plaignants qui représentaient les différentes industries ou entreprises comme Sony, Universal, etc., et qui présentaient, comment dire, les préjudices. Et qui faisait des calculs, mais sans apporter aucune preuve, en multipliant des prix de gros par des coefficients magiques qui peuvent aller de 2 à 10, en rajoutant même des préjudices moraux, parce que sur le site The Pirate Bay, il y avait des publicités à caractère sexuel. Enfin, c'était vraiment du tout et du n'importe quoi.
Le problème, c'est qu'ils font, excuse-moi, ils font des calculs à partir de la quantité de fichiers qui a été piraté.
Voilà. Alors, en plus,
ça voudrait dire qu'en fait, par exemple, si demain je vais télécharger 300 MP3, ils partent du principe que ces 300
tu
MP3, je n'aurais pas acheté.
Voilà.
Oui, alors que peut-être j'en aurais acheté 10 ou 2 ou j'en sais rien.
C'est ce calcul classique qu'ils font, effectivement. Ils disent un téléchargement égale une vente perdue, ce qui est évidemment inepte. Je suis désolé, je vous coupe, hein, parce qu'il faut aussi qu'on parle de la loi Adopi et du reste de notre programme, mais c'est complètement lié. Je vais résumer très rapidement cette histoire de loi Adopi. C'est une loi qui est proposé par l'État, qui va être voté dans 2 jours en fait, et qui a de fortes chances de passer, qui dit que n'importe quel téléchargement illégal sera sujet à une lettre qui va prévenir la personne qui télécharge qu'il contrevient à la loi.
C'est même pas un téléchargement, c'est-à-dire dès que l'adresse IP de votre connexion internet sera détectée sur un réseau quelconque. Un réseau d'échange de fichiers peer-to-peer et sur un fichier jugé comme illégal, et ben là, déclenchement de la lettre recommandée. C'est pour ça ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que on peut être amené à avoir son adresse IP diffusée, générée automatiquement, et recevoir sa lettre recommandée de Adopi quelques jours plus tard.
Alors, la première fois, c'est une lettre. La deuxième fois, c'est une deuxième lettre en vous disant « attention, c'est vraiment pas bien ». Et la troisième fois, c'est carrément, et c'est là que le bât blesse et que c'est un véritable danger, c'est carrément, on vous coupe Internet pour une période qui va de 1 mois à 1 an, ou 2 mois à 1 an. Et il y aurait des lettres des pages entières à écrire sur l'ineptie de cette mesure. Enfin, c'est, je sais pas.
Il y
moi,
en a
je...
déjà.
Il y en a déjà, tout à fait.
J'en ai écrit.
certaines choses qu'on pourrait dire sur ce, sur cette mesure, sur cette loi, c'est que d'une part, c'est totalement inapplicable. D'autre part, c'est sujet à des erreurs monumentales. Et enfin, je pense que le dernier élément, c'est que couper Internet pour ça, c'est couper complètement de la vie de la société quelqu'un pour un crime sur le, sans aucun procès et sans aucune procédure légale. Parce que, entre parenthèses, l'autorité qui s'occupe de ça n'est pas une cour de justice, c'est une organisation étatique qui fait partie, qui est mise en place par l'État, mais qui contacte directement les fournisseurs d'accès à Internet. Donc, on peut arriver à des... Enfin, moi, j'avais proposé en plaisantant que, en plus de la coupure à Internet, on vous coupe également l'électricité, l'eau courante, et ce genre de choses, parce que finalement, si vous avez l'électricité, vous avez effectivement, c'est un des trucs qui vous permet d'arriver à télécharger ce fichier illégal ou à aller sur les sites X ou Y. Et ben voilà, il n'y a pas de raison, hein, l'électricité sert aussi à ça.
C'est exactement ça, surtout. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait en écrire des pages, mais c'est vrai qu'on voit que les, comment dire, les choses qui reviennent assez souvent, que ce soit la DOPI ou la responsabilité de l'hébergeur d'un fichier illégal, etc., on peut remarquer que la plupart du temps, ces lois sont soulevées ou mises en place par des gens qui n'y connaissent vraiment strictement rien, et que si on devait le ramener au monde réel, ça paraîtrait totalement débile. C'est-à-dire, par exemple, c'est comme si cette loi Adopi, c'est comme si on disait aux sociétés, comment dire, aux sociétés d'autoroute, bah c'est à vous de regarder dans chaque bagnole s'il y a de la drogue, parce que si on trouve une voiture sur l'autoroute avec de la drogue, ce sera de votre faute et faudra la mettre. Enfin,
il y a non, c'est vraiment, effectivement, oui. Là encore, effectivement, on pourrait en dire des tonnes. C'est un petit peu décevant, parce qu'on avait l'impression, avec la fin des DRM dont on parlait dans le dernier épisode, que les choses allaient un petit peu mieux. Et puis on se rend compte qu'il y a des reliquats de cette mentalité dépassée qui veut faire de tout le monde sur Internet, qui veut mettre la responsabilité sur des gens qui n'ont pas cette responsabilité. Et c'est évidemment le lobby, encore une fois, de l'industrie du disque et du cinéma. Alors, j'aimerais également qu'on soit précis. Peut-être que avec tout notre discours, on a l'impression que on est plutôt pour le piratage et pour ce genre de choses. Moi, je crois que dire les choses comme ça, c'est se tromper de débat. Moi, je crois que, au contraire, il faut que ces industries évoluent. Et de la même manière que, à l'époque où on a créé le disque, les gens ont pensé que plus personne n'irait voir des concerts. À l'époque où on a créé la télé,
la cassette,
les gens ont pensé que plus personne n'achèterait de musique.
C'est très intéressant d'aller sur le site de, comment ça s'appelle, cet institut, l'IENA, et de retrouver les reportages de JT des années 70, 80, 90 sur le tourne-disque, sur le moment où ils ont présenté le premier dupliqueur à cassette Philips, où ils indiquaient, il y avait déjà ce mot piratage, il y avait déjà cette industrie culturelle qui se méfiait et qui voulait mettre des taxes sur les supports vierges. C'est vraiment très intéressant de retrouver des vidéos comme ça.
Et donc, effectivement, notre discours à nous qui sommes plongés dans la technologie, c'est plus il faut trouver de nouveaux modèles économiques et de nouveaux moyens de partager et de faire gagner de l'argent aux artistes, plutôt que de s'accrocher aux anciens qui ne sont plus d'actualité dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, si on vous dit aujourd'hui, moi je vais créer des contenus audiovisuels et les donner gratuitement à tout le monde et les donner en accès gratuit à toute la France et au monde entier, des productions qui vont coûter des centaines de milliers d'euros et des millions d'euros, vous allez me prendre pour un fou. Et pourtant, ce modèle existe à la télé depuis des dizaines d'années. Il fonctionne très bien.
Par la pub.
Là où on doit quand même, enfin, on doit reconnaître que l'industrie, on va dire, comme tu disais, Mathieu, l'industrie de la culture est assez balèze. C'est quand même la première industrie qui est en train d'être sauvée, enfin une tentative de sauvetage grâce à une loi. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que c'est par exemple, imaginez le textile, il y a quelques dizaines d'années, on aurait pu faire une loi qui interdisait aux gens d'acheter, je sais pas,
ou
d'acheter
même
des pulls fabriqués en Chine, ou
même de coudre, voilà, même des pulls pour les distribuer à leurs voisins, etc.
Voilà, ouais, c'est encore mieux ça. Et donc ils ont fait quand même un lobbying assez extraordinaire. Bon, c'est vrai que le gouvernement en place est plutôt favorable à ce genre de choses, on va dire. Mais ce qui est,
ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire, c'est tellement de des.
Pardon, à chaque fois que j'en parle, je m'énerve. Mais bon, le côté positif qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est complètement inapplicable. Les FAI ont complètement. Techniquement, c'est impossible. Déjà, les sociétés qui vont récolter des adresses IP, déjà, c'est des sociétés privées. On ne sait pas comment elles vont faire ça. On ne sait pas.
C'est très opaque.
De quelle manière, c'est super opaque. Aux États-Unis, il y a un gars qui a réussi à faire accuser son imprimante de téléchargement illégal.
Oui, j'avais vu ça.
Pour vous dire que c'est du n'importe quoi. On peut falsifier les IP, on peut faire tout ce qu'on veut. Bref. Donc déjà, ça part sur un principe bancal, on est mauvais. En plus, le traitement, la quantité, le traitement qu'il faut pour faire tout ça, les fournisseurs d'accès internet ont dit niet. On nous a fait croire pendant plusieurs mois là, avec les accords Oliven, qu'ils avaient signé ça et qu'ils étaient d'accord pour appliquer ça. Et en fait, on s'est rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça que on avait oublié de nous le dire, hein, mais bien sûr, qu'ils avaient complètement mis leur veto et que c'était impossible pour eux de prendre en charge ces frais-là.
Bon, donc, voilà,
Et pour résumer ce qu'a dit Patrick avant, je crois me souvenir que c'était au cinquième jour du Spectrial The Pirate Bay que Peter Sund, le chargé de la communication de Pirate Bay, a indiqué cette phrase assez vraie. C'est-à-dire que le mot pirate, c'est une étiquette qu'on colle aux gens qui n'utilisent pas les moyens traditionnels de distribution. Et je crois que ça devient particulièrement adapté depuis quelques années.
Oui, on pourrait multiplier les exemples, effectivement, et dire et expliquer comment l'industrie du disque aux États-Unis s'est fondée sur un piratage complet. Mais bon, si vous voulez découvrir tout ça, allez sur Wikipédia, c'est très intéressant. Peut-être, Corben, que tu peux nous expliquer très très rapidement en une minute, parce qu'on a fait beaucoup sur le piratage, même si c'était important, ce qui s'est passé avec la loi néo-zélandaise et cette histoire de blackout sur Twitter, parce que on parlait beaucoup de Twitter dans l'épisode précédent. Là, c'était une utilisation intelligente de l'outil, enfin intéressante en tout cas. Et ce qui se passe aujourd'hui pour la loi Adopi sur le net en général.
Bah pour la Nouvelle-Zélande, j'ai pas tout suivi, donc je pourrais pas te dire, mais je pense que ça doit être plus ou moins le même topo. En gros, ils doivent avoir un espèce de filtrage qui doit les empêcher de faire ce qu'ils veulent sur Internet. Et la loi Adopi, c'est pareil en fait. Internet s'est un peu mobilisé pour passer en blackout les sites, c'est-à-dire montrer sous forme de protestation pacifiste qu'on n'est pas d'accord avec cette loi. Parce que au-delà du piratage, cette loi elle est faite pour on va dire c'est compliqué, mais elle est faite pour comment je peux dire ça, mais il y a des histoires de censure aussi en fait au travers de cette loi, c'est de contrôle et de censure de ce que vous allez faire avec votre ordinateur, avec votre internet. On a parlé par exemple d'installation de logiciels sur votre ordinateur, donc il y a plein de gens qui protestent contre ça, mais c'est quand même une des idées qui a été évoquée par Madame Albanel. En France, oui, je parle de la France. Oui. Je peux pas parler de la nouvelle. J'ai pas tout suivi, mais même chose pour les histoires de blacklist et de whitelist. Il y a pas si longtemps non plus, Christine Albanel a proposé pour répondre au problème des bornes d'accès Wi-Fi ouvertes à tous, de mettre en place des whitelists, une liste blanche, c'est-à-dire en Chine par exemple, où ils sont censurés de partout, ils ont le droit à une liste noire, c'est-à-dire qu'ils ont le droit à accéder à tout internet, sauf on bloque les sites au fur et à mesure, sauf YouTube, sauf machin, sauf ce truc. Ici là, ce que veut faire Christine Albanel, c'est encore pire, elle veut faire l'inverse, c'est-à-dire une liste blanche où, en gros, t'aurais accès à rien du tout, et elle t'autoriserait d'aller, je sais pas, sur le site de l'UMP, sur le site de l'Elysée, et basta. Et le reste, niet.
Enfin, voilà, je crois que Le fait de dire on va faire une liste blanche, ça montre déjà l'incompétence de la personne par rapport à la technique. On sait tous très bien que tous les sites internet, bah internet c'est la base d'internet, c'est des
Oh.
liens, donc les sites sont connectés entre eux et les
Je...
sites affichent des données. Donc rien que ça, rien que le fait de dire on va faire une liste blanche et pas une liste noire, ça montre déjà l'incompétence de la personne
sans
dans ce
vous,
domaine.
il y a beaucoup de
Alors le
passion dans le
blackout.
débat. Ah bah vas-y, moi je voulais nous ramener
Ouais,
vers ce
pardon,
petit blackout.
je termine juste sur le blackout 2 secondes. Le blackout, donc passer son site en noir, bon bah on sait bien, on sait tous que ça servira à rien, que ça va pas, que ça va pas empêcher la loi de passer, etc. Mais bon, c'est quand même, on va dire important parce que c'est quand même une protestation et c'est quand même, enfin, on pourra pas nous dire après que qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas protesté et que c'est passé comme tout le reste, voilà, en douce et qu'on n'a rien senti. Là, des tonnes de gens protestent, des tonnes de gens râlent, des tonnes de gens, voilà,
S'exprime.
et c'est vrai
s'expriment, mais
qu'on revient un peu à ce qu'on a dit à Facebook avant. C'est vrai que nous, petits utilisateurs, le fait, par exemple, pour ce blackout de changer son avatar sur MSN, sur son blog, des gros sites qui ont même suivi le mouvement de passer les images en noir et d'indiquer que voilà ce qu'on aura après la fameuse loi 92A, je crois, a fait un tel ramdam que les ministres Stephen Joyce, communication et technologie de Nouvelle-Zélande, n'ont pas annulé cette loi, mais ont mis un sursis. C'est-à-dire, il y a eu tellement de mouvements sur Twitter, sur tous les mêmes très gros sites, que les ministres, voire même le Premier ministre, a dit, bon, on va repousser la loi, on va remettre les gens dans une salle, et puis il faut que d'ici 1 ou 2 mois, ils arrivent à un accord et que tout soit OK. Mais ça prouve quand même que rien que sur Internet, on peut faire du mouvement et ça marche peut-être même mieux que dans la rue.
bah, espérons en tout cas que les gens nous entendront avec notre petit blackout modeste sur
Mais
Internet.
je pense que si la loi en France, là, vu qu'elle va être discutée bah, bientôt, d'ici quelques jours, ou quelques semaines, risque réellement de passer, on a déjà pas mal de grosses sociétés qui se sont réunies, que ce soit au-delà de Free qui est toujours, qui est toujours tout seul à
Qui porte
protester,
bien son nom.
qui porte bien son nom. On a les gros sites, que ce soit Google, YouTube, etc. On imagine la loi réellement passée, ou une moitié de loi, ou quelque chose comme ça. Vous imaginez, vous allez sur des sites appartenant à Google, Dailymotion, etc. Et puis vous avez tout le site en noir, ou des parties cachées qui vous expliquent la loi. À mon avis, le gouvernement français qui recule devant quelques dizaines de milliers d'étudiants risque de pas mal reculer
Bah,
face à des
espérons,
grosses
hein,
sociétés ou des milliers de sites internet.
espérons effectivement. Ce qui est clair, c'est que cette loi va être discutée dans 2 jours et elle risque de passer. Mais enfin, le maigre espoir qu'on a, c'est que de toute façon, elle n'est pas applicable. Donc qu'elle passe ou qu'elle passe pas.
Techniquement, elle n'est pas applicable. C'est vrai qu'à la
Allez.
fin, on peut reculer du sujet en se disant de toute façon, ce ne sera pas applicable.
Bon, allez,
C'est vrai, c'est vrai.
on range le sujet piratage dans une boîte. C'était un petit peu plus long que je ne le voulais, mais c'est pas grave, c'était important. Et on parle maintenant de Gmail, qui, il y a une dizaine de jours, là encore, a été inaccessible pendant 1 heure. Gmail, donc le service de courrier électronique de Google. Et le monde entier s'est arrêté de
S'est
respirer pendant
arrêté.
cette heure-là, parce
Comme
que
le 31
Google,
janvier.
exactement, Google qui ne marche pas, c'est la fin du monde, et en particulier Gmail. Alors ce qui s'est passé, c'était un nouvel algorithme sur un serveur qui a fait que un serveur européen a été surchargé, a été
Et un
saturé, et ça
phénomène de
s'est
ricochet.
répercuté, voilà, ça s'est répercuté sur d'autres. Mais ça, c'était vraiment intéressant de voir la réaction d'Internet, parce que le monde entier l'a su immédiatement, et il y a beaucoup de gens qui ont été profondément affectés par la chose, que ce soit dans le travail ou même dans leur émotion. Il y avait beaucoup de commentaires sur Twitter, notamment beaucoup de gens qui disaient que ils étaient roulés en boule dans un coin en train de pleurer, qu'ils ne savaient pas quoi faire devant leur ordinateur. Roulés en boule dans un coin, c'était moi d'ailleurs. Mais bon, c'était effectivement assez drôle de voir à quel point un truc qui ne marche plus affecter le monde entier. Et avant de vous laisser la parole pour avoir vos réactions, je sais que Mathieu a des choses à dire là-dessus. Je donnerai un exemple de la différence entre Google et d'autres sociétés. La réaction de Google, hormis le fait de corriger le problème assez rapidement, en à peu près 40 minutes, ça a été de créer une sorte de tableau de bord de toutes ces applications. pour informer tout le monde très facilement et très simplement sur le statut des applications et les différentes pannes qu'il pourrait avoir sur les applications, et évidemment donner également les processus de résolution qu'ils mettent en place s'il y a des pannes. Et moi, j'ai découvert ça donc quelques jours après la panne, quand ils l'ont mis en place, et j'ai trouvé ça génial de simplicité et d'élégance, parce que, comme tout le monde le sait, hein, quand on est coincé dans un train à l'arrêt, on est deux fois moins stressé si on nous dit ce qui se passe. Et bien là, ça offre un moyen super simple et super pratique de déstresser, simplement en donnant l'information, et de manière vraiment super simple, au point que moi, je me suis demandé pourquoi toutes les sociétés ne faisaient pas la même chose de la même manière que
c'est
ce
vrai
soit.
Qu'on en aurait eu bien besoin avec MobileMe par exemple.
Par exemple, ouais, non mais on pense à Apple, on peut penser aux fournisseurs d'accès.
Ouais,
on parlait de Free tout à l'heure. Free a parfois des problèmes, et ben simplement le fait d'informer tout le monde comme ça aussi simplement, ça aiderait. Mais bon, donc ça, moi j'ai trouvé qu'ils avaient bien géré la chose, mais ensuite il y a effectivement d'autres considérations sur cette histoire de Gmail qui s'arrête. Je vais donner la parole d'abord à Mathieu parce que il était un petit peu vocal sur la chose.
C'est vrai que j'ai déjà pu traiter très rapidement le sujet dans le dernier épisode de MacJT, mais j'ai quand même du contenu exclusif que j'ai pas pu aborder justement dû au format de mon podcast. C'est vrai qu'on a déjà eu la panne de Google le 31 janvier, où là on a pu voir les statistiques que le net s'arrêtait, que certains gros sites avaient 30% de visites en moins parce que je crois que c'est Yann qui avait dit ça, que les gens se servent de Google comme barre d'adresse, et c'est vrai que c'est totalement vrai. Et là donc c'est Gmail qui s'arrête, et pas que Gmail, Google Apps, c'est-à-dire le fameux Gmail pour entreprise, qui est très utilisé soit dans les entreprises ou soit dans beaucoup d'écoles. Et c'est vrai que Gmail, enfin pour moi Google a très bien réagi, d'une en corrigeant le problème en moins de 40 minutes, en annonçant tout de suite quelle était la panne, quelle était la cause, et même en allant jusqu'à indemniser à hauteur de 2 heures et demie les entreprises qui payent 50€ ou 40€ par an par utilisateur pour Google Apps pour entreprise. Et j'ai été très surpris des réactions sur Twitter ou sur différents réseaux où il y avait des gens qui s'indignaient totalement en disant que c'était n'importe quoi, enfin que c'était on pensait que c'était un système magique qui fonctionnait tout le temps, etc., et que pour 40 minutes de panne depuis le lancement, ça devenait quelque chose à jeter à la poubelle, à cracher dessus.
Alors que ça, c'est bienvenu sur Internet quand même, hein, c'est un petit peu toujours comme ça.
On a l'impression que c'était un dû pour les utilisateurs, que ça marchait tout le temps, et c'est vrai que j'étais très surpris de cette réaction.
Mais donc toi quand même, tu as une image en fait quand même positif de Google. J'avais eu l'impression que tu étais un petit peu plus critique, hein, mais je suis surpris en fait de t'entendre plutôt satisfait de la manière dont ça a été géré, même par rapport à ce problème.
Quand j'utilise un produit encore plus en informatique, j'accepte le fait qu'il y a des pannes. Et quand il y a des pannes, c'est vrai que quand il y a une très grosse panne, surtout visiblement cette panne qui était en fait l'algorithme qui souhaitait rapprocher le plus les données de son utilisateur, et en même temps une opération de maintenance qui était censée décharger les demandes sur un autre data center. Quand il y a un gros problème, que c'est réglé en 40 minutes, que dans les 5 heures qui suivent on ait l'explication, qu'on ait un tableau de bord qui est mis en place, qu'on ait une indemnisation triple ou quadruple de la panne réelle, moi je regarde ça, je fais écoutez,
il faut être difficile pour pas trouver ça bien géré.
Vu la gratuité du service, et quel service, ou le prix proposé par rapport à d'autres solutions, IBM ou...
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Ou Microsoft Exchange, la personne qui se plaint, j'ai envie de lui dire, vous avez rien testé d'autre, hein. Tester une fois Hotmail, tester une fois des adresses email gratuites.
Et toi, Corben, t'as cédé à la panique ou t'es aussi positif?
Non,
que,
mais moi,
que
j'ai même pas vu la panne, moi. Je sais pas pourquoi, mais je suis sur, je suis sur Google Apps, j'ai une version entreprise gratuite, hein, mais une version entreprise. Et ça m'étonne que tu dises que c'était en panne aussi, parce que j'ai pas vu la panne. Alors peut-être parce que je récupère mes mails en IMAP dans Thunderbird.
Ouais, l'IMAP a pas été affecté. Et de toute façon, tous les serveurs n'étaient pas affectés, hein, mais effectivement.
C'était une... Donc moi j'ai pas vu le souci, mais après ouais j'ai vu les réflexions sur Twitter et ça m'a beaucoup fait marrer parce que des gens qui râlent sur Twitter, hein, surtout les gens qui sont sur Twitter qui râlent contre Gmail, alors qu'il y a pas si longtemps Twitter était en panne tous les quarts d'heure. Je trouve que c'est un peu ironique, quoi.
Mais c'est vrai qu'au final on peut mesurer l'image de Google, c'est-à-dire vraiment on a l'impression que Google c'est une société de la main de Dieu qui doit fonctionner quoi qu'il arrive.
C'est vrai, tu le dis en rigolant, mais effectivement c'est tout à fait dû à cette image qui, jusqu'à il y a quelques semaines, était une sorte de forteresse absolument infaillible. Et Google, on était convaincu que ça marcherait 100% du temps jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un tout petit peu de recul par rapport à ça et on se dit il y aura, comme pour tout service informatique, des moments où... voilà, des pannes. On va aller un petit peu plus vite sur les histoires suivantes. Il y a une histoire sur le trafic Internet, une analyse du trafic Internet, en tout cas, qui a été faite par une firme européenne qui fait ce qui s'appelle du Deep Packet Inspection. On va pas rentrer dans les termes techniques, mais c'est une analyse de ce qui se transmet sur Internet. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que le trafic de sites pornographiques et le trafic de P2P, dont on parlait tout à l'heure, donc de services d'échange de fichiers souvent illégaux, et ben ces deux trafics étaient en perte de vitesse. Donc c'était une énorme surprise parce que on a toujours eu l'impression que l'internet était utilisé pour deux choses, pour la pornographie et l'échange de fichiers illégal. Et ben là il prouve que, alors il faut faire attention parce que c'est pas que
ça prend avec des pincettes, ouais.
Ouais, c'est pas que les chiffres sont en baisse, c'est que le pourcentage d'utilisation baisse, c'est-à-dire que ça continue à croître mais moins vite que le reste. Et il faut également dire que ça représente toujours plus de 50% des parts d'utilisation de toute façon, donc ça reste quand même très très important, mais c'est quand même une surprise de voir ce ralentissement. Très rapidement, les gars, est-ce que ça vous inspire quelque chose, Corben?
Ouais, c'est normal. Les gens font moins, vont de moins en moins sur le peer-to-peer, ça, à cause de toutes ces lois. ils font du direct download, ils vont télécharger directement les fichiers, ils passent plus par le peer-to-peer, donc ça m'étonne pas.
Moi, je dirais
plus sérieusement.
Ouais, pardon.
Je pense que c'est aussi, les gens, ça leur passe un peu. Ils vont sur Dailymotion, ils vont sur YouTube. Ils font beaucoup de choses comme ça. Et je pense que c'est ces petites choses là qui grignotent petit à petit la part du porno ou des
C'est la démocratisation du média.
Exactement, c'est le terme que j'allais utiliser. Pour moi, c'est vraiment la démocratisation de ces outils ou même de l'outil en lui-même. C'est-à-dire, c'est vrai que on peut le voir, je pense, tous dans son entourage. On a même déjà la mamie ou le papy qui, sans le savoir, a cliqué sur un lien du mail et s'est retrouvé sur une vidéo, sur Dailymotion, etc. Et a ne serait-ce que fouillé dans les chaînes et a créé une habitude. Donc pour moi, il y a vraiment une démocratisation où même maintenant, on peut regarder YouTube depuis son iPhone ou depuis son téléphone et ça peut passer les heures dans le train. Donc pour moi, oui, il y a vraiment une
on sent le vécu là. Hein.
Oui. Il y a beaucoup de vécu. Non, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment que l'outil est de plus en plus utilisé et qu'au final, qu'est-ce que les gens vont utiliser? Bah, ça va être de la VoIP avec Skype pour communiquer gratuitement à travers le monde ou en visioconférence. Les gens regardent beaucoup de streaming. Donc pour moi, ouais, c'est
tout ça.
C'est,
oui,
c'est
ça fait du, ça fait du départ d'utilisation importante, c'est sûr. Autre info sur laquelle on va passer rapidement, YouTube. YouTube, donc le groupe de rock, va lancer son prochain album en streaming sur MySpace Music directement. Où il y aura pas possibilité d'achat en ligne ou de d'utiliser ces morceaux sur d'autres sites, mais par contre, c'est un groupe de plus qui se lance dans la promotion par internet, et cette fois-ci, l'album complet sera disponible directement en streaming, donc comme quoi, hein, ça ne va pas forcément cannibaliser les... Ouais, ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui comprennent un petit peu la manière dont ça fonctionne.
C'est pas eux où leur album s'est retrouvé quelques heures sur une plateforme de téléchargement légale en Australie.
Oh bah, YouTube, ah mais décidément,
c'est eux.
Oui, c'est eux. U2, ils ont eu plusieurs fois, hein, ça leur est arrivé plusieurs fois. Ils se sont fait voler des CD des maquettes, en fait. Et je suis sûr qu'encore aujourd'hui, ces maquettes sont disponibles sur les sites de téléchargement illégaux, puisqu'une fois que c'est arrivé une fois.
Et pourtant, ah oui, voilà, la première fois, c'était quelqu'un qui avait enregistré la répétition avec son téléphone portable et qui l'avait diffusé. Donc, comme quoi, ça va loin.
Bah, à propos de téléphone portable, justement, tu m'offres une transition. Samsung a sorti un nouveau téléphone portable.
Début,
pas mal, bien joué.
C'est la deuxième.
J'apprécie. Samsung a sorti va sortir un nouveau téléphone qui a été présenté à Madrid au super gros salon sur les informations des médias qu'est-ce que je raconte, des téléphones portables, et c'est un téléphone qui s'appelle le Samsung Blue Earth, qui est un super beau téléphone recyclé,
très joli,
qui est très très beau, hein. On avait parlé d'un autre téléphone recyclé il y a quelques temps par Nokia, mais qui était super moche. Celui-là est magnifique, et non seulement il est fait en matière recyclée et recyclable, mais en plus il a un panneau solaire sur l'arrière du téléphone qui permet d'allonger la charge très sensiblement, d'allonger la charge du téléphone. Donc ça, c'est encore la mode de l'écolo qui frappe, et là c'est une super utilisation. Une autre info, c'est que les chargeurs universels sont en route, les chargeurs universels pour téléphone portable, et ils auront tous le même type, et ils seront tous compatibles entre eux, donc ça va nous simplifier la vie.
Except
et évidemment,
téléphone.
Voilà, il y en a un, ce sont tes amis à toi, Mathieu. Chez Apple, ils font rien comme les autres, et donc ils ont décidé qu'ils n'adhéreraient pas à ce standard. T'as bah, quelque chose à dire pour les défendre ?
Ils ont déjà un petit peu créé le leur. C'est-à-dire que le dock connector de l'iPod, c'est le même pour... Enfin non, pas le même, mais ils fournissent même les adaptateurs quand on achète son
c'est pas
iPod
faux,
Touch,
ouais.
etc. Donc c'est vrai qu'ils ont déjà eux-mêmes un petit peu, anticipé en créant eux-mêmes leur propre standard. Mais c'est vrai que c'est à se demander des fois pourquoi chaque téléphone Nokia a quasiment son propre chargeur, sa propre prise, sa propre technologie.
Bah, c'est pour vendre des chargeurs, je pense, hein. Mais bon, bonne défense sur Apple, pas mal, ils ont déjà plus ou moins leur standard, c'est pas faux. Petite info en passant, l'iPhone sera chez SFR enfin le 8 avril, et pour Bouygues, ils sont toujours
en négociation,
voilà.
Et le G-Phone aussi qui arrive chez SFR.
Ah même chez Orange, je crois, il y a déjà une pub qui se balade sur le net, publicités pour le G1 qui vont sortir.
Alors pour ceux
c'est
qui ne savent
pas,
le G-Phone...
Dire, non.
Ah bon ? C'est une info exclusive.
Ouais, c'est bah normalement c'est une info exclusive. Voilà, mais enfin, je pense que ça va être connu un peu partout, mais je vais assister à une présentation là cette semaine et voilà, il y aura le G-Phone. Alors, je sais pas lequel c'est, je pense que c'est le G1, hein, celui que j'ai là.
J'avais entendu parler du G2 chez SFR.
Peut-être, je sais pas. Ils ont
parce
ils
que justement, ils voulaient pas. Pardon.
Et c'est quand la présentation?
Je regarde, c'est le jeudi soir, je pense, un truc
et
comme
tu,
ça.
J'imagine donc que tu mettras le blog corben.info à jour.
J'espère.
Avec les infos.
Oh, on verra.
D'accord.
C'est pas sûr.
Bon, je voulais dire aux gens d'aller sur corben.info, donc... Bon, allez
ouais,
voir, peut-être qu'il y sera.
Mais c'est vrai que concernant, pour revenir au sujet, par rapport au Blue Earth, pour moi, c'est vraiment super. Tout simplement, j'utilisais ce mot vraiment très bien parce que on a vu et entendu, vu beaucoup de, comment dire, de prototypes. Et c'est vrai que là, ils annoncent quand même par rapport au prototype, un truc en plus, c'est-à-dire ce fameux panneau solaire au dos. Mais ça montre quand même qu'ils ont réussi à créer un process de fabrication de masse. Et c'est la grosse différence qu'on a par rapport aux centaines, voire milliers de prototypes qu'on a vu déferler sur le net depuis des années.
Eh ben, on a beaucoup d'espoir, effectivement, on met beaucoup d'espoir dans celui-là, et puis c'est vrai qu'il est sexy
C'est vrai.
en plus d'être bien, donc bon, on verra. Je ne sais pas quand il est censé sortir, vous avez une date, les gars?
Non, moi
Non.
j'avais juste vu qu'il a été dévoilé déjà une première fois et qu'il
Ouais.
va de nouveau être dévoilé, mais pas d'informations là-dessus.
Un autre téléphone qui a été dévoilé, c'est le Chavez Phone du peuple vénézuélien. C'est après l'ordinateur portable officiel du Venezuela, Hugo Chavez a dévoilé le téléphone portable officiel du Venezuela, qui sera évidemment fabriqué en Chine. Mais pour combattre l'influence des Yankees, des Américains, eh ben, il a dit, et à partir de maintenant, il y aura un téléphone officiel. Il sera très bon marché. Je crois qu'il coûtera à peu près 10 ou 20 euros,
Plus proche des
peut-être un petit
20.
peu plus. Et effectivement, ce sera un téléphone qui sera parfaitement fonctionnel et qui sera mis à la disposition du peuple vénézuélien pour un prix très raisonnable. Donc, bon, je pense qu'il ne sera pas aussi sexy que le Blue Earth ou que l'iPhone ou ce genre de choses. Mais bah, pourquoi pas, hein?
Effectivement, oui.
Moi, je suis pas un super fan de Chavez, mais bon, une initiative comme ça.
Bah disons que c'est vrai que dans la forme c'est très, comment dire, c'est très sympathique, c'est-à-dire on a un téléphone à moins de 20 euros pour toutes les personnes qui ne, comment dire, qui vivent en dessous d'un certain seuil de pauvreté. On a un téléphone à ce que j'ai vu à slide, à clapet coulissant, avec tout ce qu'il faut, hein, caméra, jeu, SMS, radio, même lecture MP3, MP4. Donc dans la forme c'est super parce que ils veulent en fabriquer des millions vu ce qu'ils prévoient. Ils veulent même étendre la commercialisation à d'autres pays comme l'Amérique latine, les Caraïbes, etc. Mais c'est vrai qu'après quand on commence un petit peu à fouiller, on se rend compte que c'est une société qui a été créée, qui est détenue par le pays, donc le Venezuela, et 15% par la Chine, que c'est un modèle qui a été repris des Chinois, que on sent que derrière il y a une voilà. C'est
Ah bah
ça mon problème.
il est évident
ça sent
qu'ils
que c'est
vont
encore un
pas.
téléphone avec une batterie qui va prendre feu, ça.
Avec une batterie qui va prendre feu.
Et si j'ai bien compris, c'était le comment dire le là-bas, c'était que dans ce pays-là, il y a je crois 6 ou 7 millions de téléphones importés par an et qu'ils ont créé ce téléphone pour capter une certaine part de marché qui pourrait réduire l'utilisation des devises. Donc c'est vrai que dans le fond, ça redevient des sujets politiques pas très intéressants
Ou
ou pas
trop
forcément
intéressant,
trop
au
intéressants en
contraire,
fait.
ouais. Ou voire intéressé. Mais bon, effectivement, l'initiative, on se doutait bien que ça n'allait pas être dénué d'intentions politiques si Chavez la
Voilà.
mettait en place.
Exactement. Bien
De ce
dommage.
côté-là, on n'est pas déçu. L'autre histoire bizarroïde de la semaine, c'est l'Atlantide découvert grâce à Google Earth. Alors, on savait qu'il y avait énormément de choses découvertes grâce à l'outil Google Earth, que évidemment tout le monde connaît. Cette fois-ci, c'était l'Atlantide qui avait été découvert. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais quand on voit ces traces au fond de l'océan, complètement
Monsieur.
géométriques, c'était saisissant, quoi. On se demandait vraiment si ça pouvait être ça. Vous avez suivi l'histoire, peut-être que Corben, tu peux nous dire de
Ouais.
quoi il s'agissait
Ouais,
vraiment?
moi j'ai suivi ça. Bah, en fait, c'est un article du Sun, je crois, qui est sorti il y a deux semaines maintenant, je pense. Et effectivement, quelqu'un a découvert une drôle de trace dans le fond des océans, parce que Google a pas longtemps à améliorer la qualité des images de Google Earth. Et donc, on voit un peu mieux en fait les fonds marins. Et donc ils ont vu, enfin, quelqu'un a trouvé ces espèces de quadrillages, ça fait un peu comme un quadrillage en fond des océans. Et donc tout le monde s'est enflammé tout de suite en pensant que c'était l'Atlantide, puisque l'Atlantide, d'après les récits et légendes, est localisée plus ou moins au large des côtes du Maroc. Et donc comme c'était pile poil à cet endroit-là, ça tombait bien. Bon, et puis après, il y a une dépêche qui est retombée avec une grosse déception hein, pour tout le monde, qui expliquait qu'en fait, ce fameux quadrillage, c'est juste un. Alors, j'ai deux versions en fait, je sais pas laquelle est la bonne. Et la première, c'est que c'est un quadrillage qui est laissé par le satellite pour les photos. Et qui n'a pas été nettoyé après pour la photo. Et la deuxième version, c'est le sillage des bateaux. Et bon, là, ça m'étonne un peu parce que c'est vachement carré, vachement. Il y a des angles droits partout. Donc, le sillage des bateaux, soit il y a beaucoup de bateaux dans la région qui jouent au morpion. C'est un peu bizarre, mais bon. C'était rigolo, c'était amusant.
Moi, je pense que cette explication là, enfin ces deux explications, c'est simplement pour nous camoufler la vérité. Je crois que il y a des trucs à aller voir au large des côtes du Maroc
Comme ces fameuses formes géométriques des ovnis trouvées dans les champs par Google Earth ou d'autres choses comme
mais
ça.
C'est clair.
On nous cache des choses.
On nous cache des choses. Renseignez-vous sur Internet, vous verrez. J'ai vu sur Internet, donc ça doit être vrai. Autre info sur Apple, donc je me retourne vers Mathieu. Si on peut essayer en deux minutes d'expliquer de quoi il s'agit, Apple a lancé la version bêta de son logiciel de navigation sur Internet, Safari, et très rapidement une bêta pour ceux qui ne connaissent pas, puisqu'on s'adresse parfois à un public un petit peu profane.
La bêta, c'est de développement.
Voilà, version en cours de développement qui est mise à disposition d'un certain nombre de personnes pour tester. Alors, Safari, qu'est-ce qu'on peut en dire, Safari 4 ?
Safari 4, ça annonce du bon, mais ça fait que annoncer. C'est-à-dire qu'on a vraiment, ça c'est d'une manière générale chez Apple, on a cette impression que plus ça avance, plus il y a de parts de marché gagnées, plus il y a de nouveaux produits, plus ils prennent en compte vraiment l'utilisateur. C'est-à-dire il y a encore... quelques mois, Apple sortait des produits des fois où on se disait que on avait l'impression que les concepteurs se disaient on va mettre la Apple dessus, ça va se vendre. Je pense notamment à l'Apple TV. Et Safari, quand il est sorti sous Windows, c'est exactement ça. On sort un produit, ils sortent un produit, et ils se disent, ça vient d'Apple, donc forcément ça va marcher. Et là, avec cette version, on a vraiment l'impression qu'ils ont pris en considération non seulement les utilisateurs mais aussi les autres, c'est-à-dire Google Chrome, Firefox.
Et c'est vrai qu'ils ressemblent énormément. Ils ressemblent énormément à Google Chrome.
C'est à s'y méprendre. Heureusement que la couleur est différente, que Google est tout bleu, mais sinon c'est vrai qu'on a l'impression d'être sur le même. Mais ça annonce donc beaucoup de nouveautés, mais c'est aussi une bêta. Donc, y a énormément de problèmes, et même au-delà des problèmes du simple navigateur, c'est-à-dire que quand on l'installe sous Mac, on peut rencontrer plein de soucis dans Mail, parce que Mail utilise le moteur de Safari pour l'affichage HTML, comme dans Xcode, qui est l'outil pour développer des applications
Mac. Tu deviens compliqué, Mathieu.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme sous ce que disait Yann dans le dernier podcast, sous Windows, Internet Explorer se retrouve un peu partout, et utilisé dans des applications même quand on le voit pas, ou même quand on lance un fichier d'aide sous Windows, c'est Internet Explorer qui vous affiche cette page d'aide la plupart du temps. Oui. Et sous macOS c'est la même chose. Safari est utilisé dès qu'il y a de l'affichage HTML. Et plein d'autres choses, mais principalement. Donc, ce qui fait que quand on met une bêta et que l'affichage HTML se retrouve dans Apple Mail pour consulter ses mails ou dans plein d'autres endroits, ou même quand on développe une application, ça a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes un peu partout.
Donc, pas forcément à installer si on n'est pas...
C'est une vraie bêta, donc il faut vraiment l'installer temporairement, surtout celle-là, elle est particulièrement...
instable
Pas instable, mais elle génère beaucoup d'autres problèmes. Elle génère beaucoup d'incompatibilités. Il y a une seule chose qui est la seule, comment dire, au-delà des nouveautés, etc. Les deux seules choses que j'ai notées, c'était l'incroyable budget com, entre guillemets, qui a été mis autour de Safari 4. C'est-à-dire qu'ils ont lancé ça quasiment comme si c'était une version finale. On a eu même quand on va sur apple.fr ou apple.com, directement sur la page d'accueil, on a un petit pictogramme téléchargé, la bêta 4 de Safari. Oui. On a trois pages énormes, très bien présentées comme Apple sait le faire. C'est pour la version finale, ils auront pas beaucoup de boulot de communication à faire en plus. Et ça, je suis assez déçu. Que ce soit pour Apple ou pour une autre boîte,
pas la politique présenter les versions bêta comme si c'était des versions finales. C'est le développeur qui parle, là.
Oui. Mais même au-delà de ça, quand Google laisse Gmail 2 ans en bêta, je trouve ça parlant, ou moi ça me fait quelque chose, je me dis mince.
C'est le mot bêta pour Gmail, c'est un pur argument marketing. C'est
Voilà, c'est
juste parce
ça.
que c'est plus in d'être sur une version de développement, d'être sur un truc qui est. Ça, on dirait que c'est neuf, si tu veux, on dirait que c'est nouveau.
Et puis au-delà de ça,
Ça a envie de
ça les
tenter.
déresponsabilise
En
si ça
plus,
tombe en panne.
oui.
Donc c'était ça, c'était ce fameux, comment dire, la manière dont ça a été sorti, même si cette version annonce vraiment que du bon. Si vous pouvez la tester, testez-la, vous serez très surpris. Et une deuxième chose qui n'a pas trop de rapport avec Safari, mais quand on fouille à l'intérieur de Safari 4, ou comment dire, le contenu du paquet, on peut trouver des traces qui annoncent ce que va faire Apple
Ah, et on
dans
y
ton
trouve quoi
prochain
alors?
système. La
Suspense,
seule nouveauté,
suspense.
c'est la fameuse indépendance de résolution. C'est-à-dire qu'il y a plein de bouts de Safari qui sont plus au format PNG, par exemple les images, les boutons, mais sont au format PDF, c'est-à-dire au format vectoriel. C'est-à-dire que enfin Apple, après l'implémentation dans Léopard, va utiliser l'indépendance de résolution dans Snow Leopard à grande échelle. Donc c'est la seule nouveauté vraiment
Mais
intéressante.
qu'est-ce que ça veut dire pour les utilisateurs, ça, concrètement?
C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, bon ça, l'utilisateur Mac le connaît beaucoup plus que l'utilisateur Windows, bien que Vista rattrape un petit peu sur ce point-là. C'est-à-dire que votre interface, ce que vous avez sous les yeux, ça va être du vecteur. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez comment dire, si vous zoomez sur votre écran sous Windows, ça va être pixelisé. Vous allez avoir des pixels. Et ben là,
Donc,
avec
en
l'un des
gros, ça veut dire que ça donne la possibilité de faire des effets graphiques plus poussés et des petits
Même au-delà
mouvements,
de
des
ça, la
transformations.
moindre chose va être un vecteur, c'est-à-dire ce ne sera plus une image composée de pixels, mais des formes mathématiques, ce qui fait qu'on peut zoomer à l'infini dessus, et même au-delà des effets que ça peut
Oui, mais
apporter.
pourquoi est-ce que je voudrais, moi, zoomer infiniment sur Safari,
Et bah, même pas au-delà de ça, c'est-à-dire la taille des écrans, on a toujours remarqué, plus on a un écran grand, plus les caractères sont petits. Ça, vous avez
Ah.
déjà pu remarquer. Et bah, l'indépendance de résolution supprime, enfin, je simplifie, supprime ce problème. C'est-à-dire qu'on aura
D'accord.
la même taille sur tous les écrans. Et même au-delà de ça, ça annonce des possibilités énormes pour les personnes à déficience visuelle ou handicapées.
D'accord.
Donc c'est la seule chose pour les développeurs qui nous écoutent, c'est la chose très intéressante que nous apprend cette version bêta.
D'accord. Très bien. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de la section news. J'avais une ou deux petites histoires en plus. Bon, allez, rapidement. Un petit truc à signaler pour la fierté française, monsieur. Mythique est en train de racheter la partie française de Match.com. Alors, Mythique, c'est ce site de rencontres par Internet, de petites annonces et de rencontres. Et quand Match.com, qui est un géant américain, est arrivé en Europe, on a pensé que Mythique était foutu. Eh ben non, Mythique a réussi à résister, et non seulement à résister, mais à grossir suffisamment pour bouffer la partie européenne de Match.com, enfin la partie française. Une autre info, j'étais au TechCrunch Talk de Paris qui a eu lieu cette semaine, et je voulais juste en parler très rapidement pour dire que j'ai ressenti là-bas, le TechCrunch Talk, c'est une sorte de petit rendez-vous de rencontre et de networking pour les startups françaises et parisiennes en particulier. Et j'ai vu un énorme enthousiasme et une énorme énergie là-bas qui m'a fait quand même assez plaisir par rapport à la situation terrible économique actuelle dans laquelle on est aujourd'hui. J'ai aussi eu l'occasion de parler avec Mike Butcher, qui est l'éditeur de TechCrunch, qui est un blog sur la technologie et les startups. Et là aussi, il y a eu beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. La chose que je retiendrai, c'est que le podcasting, qui est un média qui nous intéresse, pour lui, se développera vraiment le jour où les téléphones portables y auront accès directement. Et c'était plutôt une bonne nouvelle pour nous, puisque, enfin pour Mathieu et moi en tout cas, puisqu'on n'est pas si loin de ça aujourd'hui avec des connexions Internet permanente et des téléphones intelligents entre guillemets comme l'iPhone ou le
Surtout
BlackBerry.
qu'actuellement, c'est juste des limitations techniques imposées par les opérateurs qui limitent
Voilà.
ça. On y est très poche.
Voilà, donc l'explosion du podcast bientôt, peut-être. Et voilà, et la dernière histoire sur laquelle je veux conclure absolument, qui est une petite histoire marrante, c'est l'histoire des fans de Shaquille O'Neal. Évidemment, les amateurs de basket connaîtront Shaq. Shaq, c'est un immense, à tous les sens du terme, littéral et figuré, joueur de basket américain de la NBA, qui est sur Twitter. Alors, je sais qu'on vous bassine tout le temps avec Twitter, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le truc du moment. Et il est sur Twitter et il était dans un petit diner, dans un restaurant américain, et il a dit « Ah bah je suis à tel endroit en train de prendre mon hamburger. » Super.
L'erreur.
Et il y avait des gens en fait qu'il suivait sur Twitter qui étaient dans un dans le l'immeuble d'à côté en train de bosser. Ils se sont dit « Bon bah on va aller voir là-bas si c'est vraiment lui. Allez, allons-y. » Ils y vont, ils voient que c'est lui et ils se mettent au bar en train de discuter, en train de dire de chuchoter, machin. Et Shaq les voit et il remet un truc, un message sur Twitter en disant « Je sens qu'il y a des Twitterers à côté de moi. Venez donc me dire bonjour, soyez pas timide. » Et là, ils voient le message sur leur téléphone portable. Ils vont dire bonjour à Shaq et ils passent leur repas avec lui. Ils ont pris des photos, tout ça, c'était marrant. Et donc, c'était un des exemples de la manière dont Twitter a rapproché des gens, a facilité la communication. J'ai trouvé que c'était une histoire ouais, mignonne.
C'est mignon.
Ah, on nous dit tout le temps que Internet coupe les ponts sociaux, met les gens derrière un écran. Heureusement qu'on a des exemples comme ça, il y en a pas mal, il y en a même de plus en plus, des rencontres, etc.
Ah bah moi je compte même plus le nombre de gens que j'ai rencontrés physiquement, hein. En dehors du fait que nous trois par exemple on serait sans doute jamais parlé si on n'avait pas eu ce genre d'outil. En dehors même de ce fait là, moi j'ai rencontré je ne sais combien de personnes physiquement avec qui je m'entends très bien par internet. Le petit bémol, c'est que une fois qu'ils sont repartis, Shaq a lancé un dernier Twitter pour dire c'est vraiment des lopettes ces gars là, ils sont même pas osé venir me voir tout seul comme des grands, j'en reviens maintenant. je t'ai coupé, Corben, ou
j'étais en train de... Non, j'étais d'accord avec toi sur le fait de rencontrer du monde, quoi. Vu que j'ai monté mon blog, c'est pareil. Enfin, voilà, tu fasses bon entre les soirées, les petits pots à l'arrache avec les gens justement sur Twitter ou pour voilà quoi, c'est vraiment sympathique et on rencontre pas mal de monde. Donc je pense que Internet, ouais, ça rapproche les gens. Et puis bon, ceux qui arrivent pas à se faire des potes sur Twitter, il en reste Mythique.
Et Mythique, ça marche, la preuve, il rachète match.com. Et voilà.
Je crois qu'il y a trois marchés qui connaîtront jamais la crise. C'est comme on a dit, la pornographie, l'amour et les pompes funèbres. Ça va être ça.
Et de pire tout pire.
Ouais, l'un ou l'autre. Donc voilà, c'est tout pour nos news de ce mois-ci. En conclusion, on va avoir deux petits trucs dont je voulais parler. C'était notre conseil logiciel d'une part, et c'est en rapport avec ce dont on parlait avant, parce que beaucoup de gens parmi vous utilisent certainement Internet Explorer, ceux qui sont sous Windows utilisent comme navigateur Internet Explorer. Et là, je pense que je n'ai pas à convaincre mes deux compères sur l'émission que c'est pas une bonne solution. alors, notre conseil logiciel, ça sera tout sauf Internet Explorer pour aller sur Internet. Vous avez le choix, hein, aujourd'hui. Il y a encore... Pardon, vas-y.
Oui, surtout.
Je disais non.
D'autant plus aujourd'hui.
Corben.
Non, mais faut pas déconner quand même. Non, tout sauf Internet Explorer 6. Oubliez Internet Explorer 6. Après, vous faites ce que vous voulez, le 7, le 8, ça va. Mais bon, c'est vrai que le mieux, c'est effectivement du Firefox. Ou alors ce que vous avez, je sais pas, c'est Safari, hein, c'est ça, ou Chrome.
Ouais.
Safari, Chrome, ouais. Ou même Firefox, c'est le mien.
Firefox, c'est mon mien.
Donc pareil, bah moi j'utilise Firefox et j'avoue que je suis assez séduit par Chrome en ce moment. Chrome qui, pour ceux qui ne le savent pas, est le navigateur internet de Google. Il est d'une vitesse et d'une rapidité invraisemblable. Essayez-le ne serait-ce que pour ça, vous l'installez, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser à tous les coups, mais essayez-le, vous serez surpris. Et d'ailleurs Safari, qui est à la même base que Chrome, est également est également incroyablement rapide. Donc
c'est d'ailleurs là-dessus que Safari 4 montre déjà qu'il était déjà très très rapide. C'est vrai qu'il suffit de lancer, de tester un seul site, ne serait-ce un site rempli de JavaScript, on va parler de Facebook. Vous testez Facebook sous Safari, en passant de Firefox à Safari, vous avez l'impression d'être sur une application locale.
Ouais, c'est-à-dire
c'est une rapidité assez impressionnante.
Ouais, Je vais apporter une petite précision. La prochaine version de Firefox va tous les manger. Hein. Je le dis. Ils ont changé le moteur JavaScript. Ils ont optimisé le bazar et voilà, ils vont arriver sur les premiers.
Certainement. Mais la différence, c'est que Chrome est disponible aujourd'hui tout de suite. Donc,
c'est vrai.
Il y a un autre avantage à Firefox, pardon.
Extensions.
Corben. Oh, même au-delà de ça, c'est que Firefox est un logiciel libre. Donc, il n'appartient pas à une grande corporation méchante et vilaine qui va vous prendre vos sous par une manière ou une autre. Mais bon, moi, je suis fan de Chrome et de Firefox. Mathieu est fan de Safari et de Firefox. Corben est fan de
Safari,
un peu tout.
Très peu. Bizarrement.
Ah bon, c'est vrai.
Oui, la version 4 me réconciliera peut-être, mais
peut-être. Donc voilà, enfin, en tout cas,
je crois qu'il y a une version open source de Chrome qui s'appelle Chromium. C'est la version, Chrome a ses sources ouvertes, et donc il y a une version qui est pas compilée par Google en fait, qui est libre,
hein,
qui s'appelle Chromium en fait. Et c'est, ils font la même chose avec, par exemple, leur système d'exploitation Android où il y a la version compilée pour.
Donc c'est vrai que la base même de Safari ou de Chrome, c'est le WebKit qui lui est en open source et qui a à la base été développé, je crois, sous Linux avec KDE.
Oula, je vois que on continue dans
donc
la tradition.
Comment dire, le cœur est libre. C'est ça le principal, que la déco autour soit propriétaire. Un peu importe.
Voilà, donc bon, bref, vous avez le choix, hein. Essayez Chrome, Safari ou Firefox, vous ne serez pas déçus par rapport à Internet Explorer. Corben disait dessous ou Internet Explorer 6, moi je dirais même par rapport au 7, l'expérience que vous aurez en naviguant sur Internet sera vraiment différente si vous utilisez autre chose que ce logiciel Microsoft. Le site fantastique qu'on vous recommande ce mois-ci, c'est un petit
le
peu
mien.
Un ensemble. Bon, alors le site principal, c'est corben.info, évidemment. Et en dehors de ça, si vous avez le temps, moi, c'est un truc que j'ai découvert. Alors, je vais passer pour le dernier des abrutis, mais c'est un truc que j'ai découvert il y a très peu de temps, il y a un ou deux mois. C'est l'ensemble de services offerts par Google, c'est-à-dire Gmail, le calendrier Google ou les documents Google, qui vous permettent de tout héberger sur Internet, dans le nuage, hein, ce fameux cloud dont on parlait la dernière fois. Et sincèrement, moi, j'avais été un petit peu récalcitrant à l'origine parce que je me disais, pour différentes raisons, bon, Gmail, il y avait des fonctions qui n'étaient pas encore là, dont j'avais besoin. Les documents, je me disais, bon, c'est pas aussi beau qu'un truc que je peux faire avec Word ou Excel. Mais finalement, en me forçant un petit peu, en essayant de prendre l'habitude, ne serait-ce que pour tester, je me suis rendu compte que, une fois qu'on s'est adapté, d'une part, la plupart des choses fonctionnent aussi bien que ce qu'on a en local, exception faite de certaines choses pour des présentations particulièrement complexes ou des documents vraiment qui doivent vraiment être mis en forme sous Google Docs, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais il y a vraiment une place dans l'utilisation qu'on en fait tous les jours en bureautique ou même en utilisation personnelle pour tous ces outils. Et ils ont, en plus du fait qu'ils soient aussi efficaces que les autres, des avantages que les autres n'ont pas. Moi, ils ont vraiment le fait, par exemple, que ça soit hébergé sur Internet et que je n'ai pas besoin de me soucier de transmettre mes documents, de faire attention quand je suis sur mon portable. Quand je suis sur mon portable, est-ce que j'ai mes mails ou est-ce que je les ai pas ? Est-ce que tout ça, ça a vraiment la phrase que j'utilise, c'est que ça a résolu des problèmes que je ne savais pas que j'avais. C'est vraiment des choses qu'il faut essayer pour voir si c'est bon pour vous ou pas. Et mon conseil, c'est vraiment de les essayer. Ne vous dites pas non, tout ça c'est pas pour moi, j'ai pas confiance si c'est sur le net ou je sais pas quoi. De toute façon, votre ordinateur il peut tomber en panne aussi, donc vous serez bien content d'avoir vos trucs sur le net et de pouvoir y accéder de l'ordinateur du pote ou de l'ordinateur de votre petit frère ou de votre femme. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas, mais essayez en tout cas, vous risquez d'être très agréablement surpris. Forcez-vous pendant 2 semaines ou 3 et vous verrez la différence, c'est vraiment vraiment intéressant. Et je précise simplement avant de donner la parole à mes deux compères que Google Mail vous permet de récupérer les mails de votre compte existant. Donc, vous pouvez essayer Google Mail sans risque. Vous récupérez les mails simplement, mais vous les laissez sur votre compte existant et vous utilisez votre ancien logiciel et Google Mail en même temps, le temps de voir si ça vous plaît ou pas. Et vous pourrez même envoyer par Google Mail des emails comme s'ils étaient envoyés par votre adresse classique. Vous pouvez spécifier quelle adresse va apparaître dans le champ de réponse et dans le champ de personne qui a envoyé. Donc voilà, mon petit conseil sur le sujet. J'imagine que vous ne me contredirez pas, Mathieu et Corben. Corben, toi, tu es un adepte de ce genre de choses ?
Ouais, moi j'aime beaucoup les outils de Google. C'est vrai que bon, faut pas être frileux, faut pas avoir peur de laisser ses infos à Google, mais bon voilà quoi. Moi ce que je recommande aux gens, c'est de rien laisser de sensible. Voilà, parce que au-delà du fait que Google va exploiter les données ou pas, on s'en fout, c'est plutôt le risque de se faire pirater. Si vous laissez des documents un peu confidentiels ou ce genre de choses, si vous faites voler votre mot de passe, vous les perdez quoi. Donc c'est vraiment à utiliser avec des choses que vous n'avez pas peur de vous faire voler en tout cas. Et sinon, oui, moi je suis assez fan de ce genre d'outils. J'ai par exemple, j'utilise Google Apps qui est, on va dire, la suite Google avec la totale, hein, le calendar, le Google Doc, le Gmail. Et j'ai tout configuré en fait sur mon nom de domaine, ce qui fait que quand j'ai ma boîte mail qui est corben@corben.info, c'est un Gmail derrière. Et j'ai mes sous-domaines, je peux configurer si je le souhaite des sous-domaines comme je sais pas mail.corben.info ou calendar.corben.info, etc. Et on peut créer autant de comptes qu'on veut, ce qui fait que pour des petites entreprises, c'est tout à fait possible d'avoir un bureau distant, complètement décentralisé, et offrir ça à ses employés et voilà, permettre.
Tu es un petit peu le son est un petit peu bizarre là. Je ne sais pas si tu es en train de télécharger sur Pirate Bay en même temps, mais. Mais ouais, écoute, il faudra qu'on parle parce que tu m'intéresses avec cette histoire de configurer Google Mail derrière ton propre domaine. Faudra que tu m'expliques comment ça marche.
C'est sur mon site, j'ai tout expliqué.
Ah d'accord, je vais y jeter un coup d'œil. Encore une fois, allez sur corben.info pour voir tout ça. Mathieu, rapidement, j'imagine que.
Donc moi je suis converti mais depuis des années, donc j'utilisais Gmail, et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir déployer Google Apps pour entreprise dans une société qui compte 150 collaborateurs, et c'est vrai que, comment dire, déployer une solution qui est celle-ci, c'est-à-dire Gmail, Google Calendar, Google Documents, etc., comparé à une autre solution, que ce soit IBM Lotus ou Microsoft Actions, qui coûte plusieurs bras par mois ou par an, c'était d'une simplicité déjà assez incroyable. C'était pour l'administrateur, c'était assez phénoménal. Et après, pour l'utilisateur de tous les jours, qui étaient des utilisateurs qui, mis à part Microsoft Word ou Excel, ne lançaient rien d'autre, ça a d'une résolu des problèmes de transmission de documents. Vous imaginez bien les kilomètres de tableau Excel qu'il peut y avoir dans une entreprise. Ça a résolu des problématiques. Et ça a en plus créé des choses qui étaient impossibles, c'est-à-dire travailler à plusieurs sur un tableau, avoir une personne à Lyon qui travaille sur un tableau de rentabilité et avoir une autre personne à Paris qui consulte ce même tableau mis à jour en temps réel sur son iPhone devant les fournisseurs. Enfin, ça a créé des choses assez incroyables. Et c'est vrai qu'il y a une petite appréhension parce que c'est un peu nouveau, c'est un peu bizarre. Mais après 3-4 jours, une fois qu'on a compris que ça fonctionne pareil, et toutes les possibilités que ça permet, là, c'est l'utilisateur qui lui-même va chercher et va trouver des choses et va créer des choses assez incroyables.
Écoute, moi, je voyais ça du point de vue personnel et de l'utilisation pour les particuliers, mais c'est sûr que j'imagine tout à fait que pour une entreprise, même de taille relativement importante, ça peut apporter des nouvelles manières de travailler qui sont vraiment intéressantes, quoi. Donc, tout à fait. Donc, que vous soyez particulier ou dans une entreprise,
c'est à tester. C'est vraiment à tester.
En tout cas, testez-le. Voilà, c'est le message qu'il faut retenir. Testez la suite d'applications Google. Ça vous apportera peut-être quelque chose de très intéressant, et on est tous là pour vous dire que la période d'essai est terminée et vous pouvez vous lancer sans trop de crainte. C'est quelque chose de véritablement qui apporte une valeur en plus.
Et ça peut apporter une complémentarité complète, voire totale, parce que là, on a le principe de Google qui est très ouvert, c'est-à-dire tous vos Google Documents, vous pouvez les télécharger au format Word, au format OpenOffice, au format PDF, au format... Donc en fait, tout ce que vous mettez dedans ou tout ce que vous créez dedans peut être sorti, repris, partagé,
voilà,
travaillé.
Voilà, vous vous enfermez pas avec, quoi.
Voilà, exactement.
Moi, j'ajouterais un truc aussi, c'est que pour les nomades, c'est l'idéal, parce que même quand on n'est pas tout le temps connecté, il y a un petit plugin qui s'installe par exemple sur Firefox, qui s'appelle Google Gears, et qui permet justement d'aller consulter ses mails de façon déconnectée, donc c'est-à-dire qu'il
arrive si c'était un logiciel.
Les mails en local. Voilà, comme si on était sur un logiciel offline, complètement déconnecté, et même chose avec les documents, etc. Donc, et une fois que ça, vous pouvez écrire des mails et rédiger ça dans le train, par exemple, pendant qu'on n'est pas connecté, et dès que vous arrivez au bureau, vous branchez l'ordi et tout synchronise et tout s'envoie, et vous récupérez vos nouveaux mails, etc. Et
c'est vrai que moi, c'était l'un des trucs qui faisait que j'étais un petit peu réticent jusqu'à l'arrivée de Google Gears l'année dernière, c'est que je me disais, si jamais, par un malheureux hasard, la connexion internet saute, bah j'ai plus accès à rien, quoi. Et je fais comment? Et ben là, effectivement, Google Gears résout ce problème. J'ai quand même mes documents et une partie de mes mails les plus récents sur mon ordinateur. Et voilà. Et le jour où je me reconnecte, et ben tout va bien.
Tout
et puis si je suis pas
voilà.
connecté, c'est pas grave. Donc ouais, pour les portables, c'est important aussi.
Juste un conseil, enfin moi ce que je fais c'est que je récupère quand même tous mes emails en POP3 hein, de manière classique sur mon ordinateur avec Thunderbird.
Et en plus
ça, si un jour Gmail se fait effacer de la planète pour définitivement, j'aurai quand même une copie de mes mails.
C'est-à-dire que tous les jours, une fois par jour, tu télécharges tous tes mails sur Thunderbird.
Ouais, voilà.
D'accord,
ouais.
Je vois. Mais tu les classes pas par contre, tu les colles sur ton truc et puis voilà, c'est pour archives.
Je classe jamais rien, moi.
D'accord. Bon, et bah écoutez, avant de nous quitter, je vais quand même parler d'un message qui nous a été laissé sur le blog par Jason, qui nous parlait, qui nous répondait par rapport aux infos qu'on donnait sur les livres électroniques la dernière fois, pour nous donner quelques précisions qui sont assez intéressantes. Donc je vais vous les répéter ici. D'une part, la première chose qu'il disait, c'est que l'encre électronique était très proche du papier quand on lisait, c'est-à-dire que le contraste est très fort et qu'on peut même lire en plein soleil. Donc ça, c'est une chose qui est très différente d'un écran classique, hein, qui est brillant mais qui est difficile à lire en plein soleil. Il dit également que l'un des autres avantages, c'est que l'électricité n'est consommée que quand on change de page, ce qui fait que la batterie va durer très 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 longtemps. Par contre, l'un des problèmes, ça va être que le taux de rafraîchissement, le temps de changer de page, ça va être 0,5 secondes entre chaque page. Alors évidemment, ça, c'est pas super long si on veut juste changer de page pour un livre, mais le problème, c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas d'animation ou de vidéo ou de choses comme ça. Et l'autre problème, c'est que ça n'affiche qu'en niveau de gris. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit là encore. Donc, il n'y a pas de couleur. C'est uniquement des niveaux de gris différents. La technologie risque d'arriver bientôt pour faire évoluer tout ça, mais ce n'est pas encore là.
En même temps, il faut que ça reste un livre.
Oui, bon, c'est sûr, mais peut-être que ça va évoluer. Et ce qu'il disait, effectivement, c'est que quand on est sur son téléphone, parce que je ne sais plus qui suggérait de lire des livres sur son téléphone, il y a quand même un intérêt à avoir un outil indépendant pour lire des livres qui soit complètement consacré à ça. Et la phrase qu'il disait, c'est qu'il ne voulait pas être interrompu par un ami qui nous broadcast sa location. Et les gens qui ont lu le titre de l'épisode précédent comprendront pourquoi il a utilisé ce néologisme horrible. Voilà. Et ça va être la fin de notre épisode notre épisode numéro 3. Je vais évidemment remercier nos deux panélistes de nous avoir rejoints. C'était un petit peu plus technique que d'habitude, mais on a eu des points de vue extrêmement intéressants. Et puis je vais vous laisser donc 2 minutes. On en a parler un petit peu, mais je vais vous laisser le refaire pour parler de ce que vous pouvez proposer à nos auditeurs sur Internet, s'ils sont intéressés. On va commencer par Mathieu.
Alors moi, c'est MacJT, MacJT.fr en un seul mot. Le podcast de l'actualité Apple, mais aussi plus généralement des nouvelles technologies, tous les dimanches soirs à 19h30. On aborde aussi bien le sujet Apple que Microsoft que d'autres. Il y a aussi les avis et les remarques sur le répondeur, donc vous pouvez participer à l'émission, poser des questions, des fois très intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter les archives directement depuis le site ou depuis iTunes et découvrir ce podcast, même si vous n'avez pas de machine à pommes.
Tu n'as pas de Twitter, Mathieu, je crois.
Et pas encore, non, j'ai vraiment que Facebook et au niveau personnel, je n'ai même pas encore de blog, mais c'est le lancement de ma société me prend beaucoup de temps en ce moment, mais ça va venir.
Bon, t'inquiète pas, tu vas tomber dans Twitter toi aussi.
je pense bien aussi.
Corben, tu as quelque chose dont tu veux parler aux auditeurs ?
Non, si on représente mon site, on va peut-être s'arrêter là, mais non, mais moi je fais mon petit bonhomme de chemin, j'essaye de dispenser la bonne parole, les petites astuces, des petites choses comme ça. J'ai une bonne communauté, il y a beaucoup de gens qui commentent, qui se renseignent les uns les autres, qui s'aident les uns les autres, donc c'est assez sympathique. Il y a une bonne ambiance, quoi. Et puis tout ce que j'ai pas le temps de mettre sur le blog, je le mets sur le Twitter, donc il y a aussi Twitter. C'est simple, hein, c'est Corben partout.
Corben partout, voilà. Donc twitter.com/Corben, KORBEN. Très simple. Ça va être tout pour cette émission. Je vais inviter les auditeurs à aller sur iTunes pour nous laisser un petit commentaire s'ils ont aimé ou même s'ils n'ont pas aimé d'ailleurs. Un petit commentaire, une petite note, ça nous aide à avoir un petit peu plus de visibilité sur le l'iTunes Store et donc ça nous fait un petit peu de promotion. Ça sera très gentil de votre part.
Est-ce que les auditeurs peuvent voter pour virer des gens, c'est-à-dire appuyer sur un et sur deux pour te virer toi du podcast? Non, c'est pas possible, ça. Je suis pas tué des podcasts.
Sur iTunes, c'est pas possible, mais peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un petit truc sur le site pour faire appuyer sur un pour virer Corben, appuyer sur deux pour virer Mathieu. C'est une bonne idée, il faudra y penser. Le reality rendez-vous tech.
Le jeu des chaises musicales des intervenants.
Voilà. Et d'ailleurs, pour le site, vous pouvez aller sur lrdv.fr. C'est LRDV comme le rendez-vous tech. Il faut le dire très vite, ça fait LRDV. Voilà. Vous pouvez nous envoyer un email à tech@lrdv.fr. Vous pouvez aller commenter sur le site et sur les pages des émissions, hein, sur le blog évidemment. Et la dernière chose, la plus importante, si vous ne devez en retenir qu'une, c'est celle-ci, c'est que vous pouvez me suivre sur Twitter à twitter.com/notepatrick. Comme si c'était pas Patrick, mais en fait c'est Patrick. Donc twitter.com/notepatrick, c'est mon adresse Twitter. Et on va arrêter de vous embêter avec toute cette promotion. Et on va vous souhaiter une excellente semaine et même deux semaines, puisqu'on se retrouvera normalement d'ici 15 jours avec, si tout va bien, Jeff et Yann de retour dans l'émission. Et d'ici là, on vous dit au revoir. Passez du bon temps avec la technologie en essayant Google et tout le reste. Et voilà, c'est tout. Bah, merci à tous et puis à très bientôt.
Merci,
ciao, ciao.
À très bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.